Religion du monde. Geneviève Delru.
Je vois dans chaque être humain une présence de Dieu, indispensable. C'est ça que je regarde en premier. Je ne juge pas la personne, ni son physique, ou son aspect, ou ce qu'elle dit. J'essaie de percevoir où est la vérité, où est le cœur, où est le Dieu dans cette personne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On n'entendra plus le timbre si étrange de sa voix. On ne verra plus sa longue silhouette voûtée avec le temps et ses refermés, son regard profond, doux, énigmatique. L'acteur et comédien Michael Lonsdale s'est éteint lundi dernier à Paris à l'âge de 89 ans, au terme d'une carrière aussi longue qu'éclectique. Et c'est à l'artiste et à l'homme de foi que nous allons consacrer la première partie de cette émission. S'il sut incarner avec autant de justesse le rôle de frère Luc dans le film « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois sur les sept moines de Tibrine assassinés en 1996 dans ce village de l'Algérie, c'est que pour cet acteur profondément chrétien qui avait vécu une partie de sa jeunesse au Maroc, il s'agissait d'un rôle sur mesure. Celui du moine modeste qui, dans son dispensaire, accueille, soigne, écoute les habitants, notamment cette jeune fille venue lui demander conseil. Frère Luc, son plus beau rôle, lui vaudra d'ailleurs le César du meilleur acteur dans un second rôle décerné à Cannes en 2011.
Mais comment on sait quand on est vraiment amoureux ?
Et il y a quelque chose en vous qui s'émeut, la présence d'un être qui est incontrôlable et qui fait que le cœur bat, généralement, et... C'est une attirance, c'est un désir, c'est très très beau. Donc, faut pas trop se poser de questions, tu sais, c'est un état de fait. On est comme ça, puis tout d'un coup, c'est le bonheur, enfin l'espoir du bonheur, c'est un tas de choses. Mais enfin, c'est un grand trouble, surtout quand c'est la première fois.
Comme une terre assoiffée. Me voici devant toi, Seigneur. Comme une terre assoiffée, me voici devant toi, Seigneur.
J'ai rencontré à plusieurs reprises Michael Lonsdale dans son domicile parisien et aussi dans un café juste en face de son immeuble. De ce tournage des hommes et des dieux, il disait que pour toute l'équipe, croyants et non-croyants, cela avait été un moment de grâce. Et à propos de l'interprétation de frère Luc, voilà ce qu'il m'avait répondu.
J'avais l'impression que c'était pas moi qui parlais, qu'il y avait une présence là, comme s'il était là. C'était très impressionnant. Ça m'a troublé. Alors quand il a fallu tourner la première scène avec la petite Algérienne.
Oui, la scène où vous parlez avec elle, elle vient vous demander des conseils sur l'amour, sur la vie d'adulte.
Oui, son père veut la marier avec Marie, elle ne sait pas ce que ça voulait dire. Et donc, Xavier, le réalisateur, m'a dit, écoute, je suis pas contente de ce que j'ai écrit, est-ce que tu peux improviser ? J'ai dit, je peux toujours essayer, je te garantis pas, mais allons-y. Alors voilà, allez, moteur, action, et voilà, alors moi je me suis mis à parler, c'est venu comme ça. Et alors sa parole, c'est magnifique le frère Luc, ça c'est la vie donnée totalement, 45 ans, nuit et jour, de 7h du matin à minuit le soir souvent, il recevait 150 personnes par jour, c'est hallucinant.
Toi t'as déjà été amoureux ?
Oui, plusieurs fois, oui. Après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors, j'ai répondu à cet amour-là.
Mais ça, j'aime beaucoup improviser. Parce que les choses surgissent comme ça, à l'imprévu. Et on libère souvent des tas de choses qu'on ne sait pas dire. Ça a été comme ça avec Marguerite Duras pour le India Song, quand j'ai dû hurler pendant toute une après-midi à la maison de la radio. Pour exprimer mon amour pour cette femme, la femme de l'ambassadeur. Les cris, les larmes, tout ça c'est venu et je me suis... Vraiment c'est un métier incroyable, on se purifie, on se... Et mon père spirituel m'avait dit, vous direz au public des choses que vous ne pourrez dire à personne dans la vie. J'ai jamais oublié cette phrase. C'est vrai, c'est un métier merveilleux à cause de ça. On se soigne, on se libère, on ose des tas de choses qu'on ne fera jamais sans ça.
Artiste mystique, c'est l'image que laissera Michael Lonsdale avec ses longs cheveux à la fin de sa vie, qui lui donnait le visage d'un prophète de l'Ancien Testament ou d'un saint du monde orthodoxe russe. C'est à l'âge de 22 ans qu'il a choisi de se faire baptiser. Un baptême dans les larmes, m'avait-il raconté.
J'étais complètement possédé de larmes, ça coulait de partout. Et c'est pas un bonheur inexplicable, une joie, mais intense, intense, intense. Avec une marraine superbe, aveugle, qui elle aussi m'a aidé beaucoup à évoluer.
Dieu, c'est une rencontre.
Ben voilà, pour moi c'est le modèle. Je ne crois pas qu'il y ait de plus belle parole que ce que cet homme demande. Il nous demande, il nous commande d'ailleurs aussi, d'aimer l'humanité, d'aimer, oui. Et, oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, oui. Ce qu'ont fait les moines de Tibérine, oui.
Voici.
Vous écrivez, Michael Lonsdale, que la foi vous a retourné, qu'elle vous a changé, qu'avant vous étiez préoccupé par votre carrière, que vous jugiez les autres aussi, que peut-être que vous manquiez de pardon, de compassion, alors d'humilité peut-être aussi, et tout cela, c'est un virage à 180 degrés.
Je portais des jugements que les gens appréciaient beaucoup en me disant « oui, tu juges très bien les gens ». Et moi j'étais content, j'étais fier de moi. Puis un beau jour j'ai compris que quelle horreur, tu arrêtes tout ça. N'accable personne, aide la personne. Oui, c'est, j'ai pu rectifier des défauts épouvantables comme ça, d'égoïsme, de mépris pour les gens.
Et puis aussi aime-toi toi-même. Hein. Vous êtes appris, vous qui étiez intimide.
À pas savoir parler. J'ai fait un effort pour parler à ce prêtre. Mais c'est pour ça que je bafouillais, quoi, je veux dire. Non, c'est après que j'ai appris, en effet, et sous sa conduite, mais respecte-toi, tu es un enfant de Dieu, alors là, pense à ça.
Montre-moi ton visage, Anselme de Cantorbéry. Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache point. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher, où et comment je te trouverai. Puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas? Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible, mais où resplendit-elle cette lumière et comment parvenir jusqu'à elle? Qui me guidera, qui m'introduira pour que je puisse te voir? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi la lumière, montre-toi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder, aide-moi, apprends-moi à te chercher, car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant je te trouve et que je t'aime en te trouvant.
Un livre et un CD intitulé « Et ma bouche dira ta louange » aux éditions Philippe Ray avaient réuni les prières favorites de Michael Lonsdale, dont celle d'Anselme de Canterbury, que nous venons d'entendre. Michael Lonsdale était, il nous l'a redit lors d'une rencontre dans son café favori en face de chez lui, il était un homme de prière. Il a, au sujet de sa foi, écrit plusieurs livres.
Je prie beaucoup, mais j'ai pas besoin d'aller dans un lieu de culte ou une église ou une chapelle. Je prie partout, dans le métro, dans l'autobus, dans les trains. Alors, je prie pas pendant des heures, hein, mais je confie beaucoup, je fais des prières d'intercession pour tous ceux que j'ai connus, qui sont partis maintenant. Et puis pour beaucoup de gens dans des difficultés très compliquées, très dures, des malades, tout ça. Voilà. Donc c'est un tête-à-tête avec Dieu, on lui parle, enfin le Christ, je pense, puisque il a dit cette phrase très forte, « Je vous laisse mon esprit », il n'a pas dit « Je vous laisse l'esprit ». Et donc c'est une des trois parties de Dieu. Mais j'aime mieux, en effet, m'adresser au Christ, parce que je peux faire une image, j'ai une image. Dieu, on n'a pas d'image de lui, et l'Esprit non plus.
C'est le passeur.
C'est le passeur, oui.
Et vous priez aussi, dites-vous, pour ceux que vous ne connaissez pas.
Oui, des fois, comme ça. Par exemple, ce bonhomme-là qui a essayé de tuer, celui qu'on vient d'arrêter, tout ça. Tout de suite, mets en prière. Seigneur, prends-le avec toi. Aide-le, parce que c'est un pauvre, c'est un malheureux.
Vous priez pour les prisonniers ?
Oh, ben oui, beaucoup. Oui, oui. Parce que pour eux, ça les réconforte beaucoup de savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour eux. Oui.
Pour vivre sa foi, Michael Lonsdale avait choisi des charismatiques. Homme pudique, réservé, je lui avais demandé pourquoi il avait fait ce choix d'une communauté où l'on exprime de façon expansive et démonstrative sa foi. C'était lors de notre dernière rencontre en 2017.
J'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma tante, j'ai perdu ma marraine. Tout ça la même année, ça a été une horreur. Je passais mon année dans les cimetières et les pleurs. Et puis, ça n'allait pas bien, je me sentais... On sonne un soir ici, et puis je vais ouvrir, c'était mon parrain. J'avais prié Dieu, aide-moi, je t'en prie. Je te supplie de m'aider parce que moi je ne peux plus rien faire. C'est fini.
Vous n'aviez plus envie de vivre ?
Non. Alors j'étais étonné de le voir parce qu'il ne m'avait pas prévenu qu'il allait venir. Il entre, etc. Il m'a dit oui, je voulais te faire la surprise. Il me regarde, il dit mais qu'est-ce que tu as ? Ça ne va pas du tout. Et je me suis jeté dans ses bras et j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Alors, il était assez embêté, il m'a dit, écoute, si tu veux, je t'emmène là à côté, il y a à l'église des gens qui se rassemblent pour prier les uns pour les autres. Si, je t'emmène, si ça te plaît, tu restes, si ça ne t'intéresse pas, ça a été la réponse à ma prière. Je suis arrivé là-bas, il y avait des chants en langue, et tout d'un coup, en entrant dans cette église, il avait commencé la soirée. Je sais, qu'est-ce que c'est que cette musique de 300 personnes en train de chanter sans parole, on aurait dit la musique des anges, et puis les témoignages, et puis la Bible qu'on ouvre, et c'était magnifique, et puis ensuite ça se termine par des petits groupes de prière, on trouve des textes dans la Bible, et puis on prie pour eux, et voilà. Alors c'était magnifique.
Et ça vous a sauvé, ça ?
Oui, ça m'a sauvé, parce que c'était des frères accueillants, généreux, vivants, et après, avec Dominique Ré, l'actuel évêque de Toulon, nous avons créé un groupe de prières pour les artistes. Ça a duré 20 ans, cette histoire.
Est-ce que vous êtes un cas, on peut dire, dans le monde artistique, d'un homme profondément croyant, pratiquant, et qui affiche sa foi ?
Oui, il y a plein de gens croyants. Brigitte Fossé, Catherine Salvia, Claude Riche. Mais pendant longtemps, ils n'osaient pas trop le dire, parce que dans le cinéma... Les gens intéressants étaient plutôt de gauche, quoi, et anti-religieux. Alors ils disaient à personne qu'ils étaient croyants. Mais maintenant, ça y est, c'est fini, ils peuvent le dire.
On peut faire son coming out maintenant, en religieux.
Mais oui, c'est vrai, parce qu'ils avaient peur de ne pas travailler, hein, parce qu'il y avait des gens qui ne supportaient pas les chrétiens. Des réalisateurs, ils n'en voulaient pas.
Votre amitié avec Marguerite Duras, justement, ça n'a pas été un peu difficile là, sur ce plan-là, sur le plan de la foi, puis de la politique aussi.
La politique, je suivais ça dès qu'elle en parlait, je m'en allais parce que la politique, ça m'embête de le dire, mais ça ne m'intéresse pas trop. Je trouve qu'il y a trop de bavardage et trop de... Tandis qu'avec Marguerite, on avait des rapports d'enfants. On riait à mourir de rire. On se comprenait à demi-mot, il n'y avait pas besoin de... Chaque fois que j'ai travaillé avec elle, on se comprenait, mais... Oui, oui, c'était magnifique, ça.
Alors aujourd'hui, c'est... Avec le pape François, c'est plus facile d'être catholique, hein ?
Alors j'ai dit, paraît-il, dans une interview, oh, il faudrait quand même que le prochain pape soit comme ça, Saint François.
Avant, donc, son élection.
Oui, oui.
Mais c'était prémonitoire, ça.
Ah ben oui, oui, oui.
Vous l'appréciez, ce pape,
oui,
manifestement.
Parce qu'il passe là où il faut commencer, c'est-à-dire par les pauvres. Le reste vient après.
Le christianisme, d'abord la parole aux pauvres.
Oui, enfin la parole, l'aide, et puis surtout, je sais pas, l'amour, c'est aimer les gens en difficulté, à les soulager, à aider. Voilà, c'est penser aux autres avant soi.
Votre regard sur le monde aujourd'hui, vous voyez... Une sorte de fragmentation, semble-t-il, avec Internet, des vies survoltées.
Non, je pense que ce sont les signes très en avance sur la fin d'une civilisation. Ça a été comme ça chez les Égyptiens, ça a été comme ça chez les Grecs, ça a été comme ça chez les Romains. Les choses s'usent et on perd les choses positives pour se laisser bouffer par ici. Maintenant, c'est l'argent, c'est les appareils où les gosses commencent à passer des heures devant une fausse vie avec leur...
Du virtuel, quoi.
Oui, virtuel. Et puis alors, la relation de l'argent. Beaucoup de jeunes, je leur dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je suis dans les affaires, je vais être dans la banque, etc. Je dis, ah bon?
La oui. Finance, oui.
Il y a tellement mieux à faire, tu sais.
Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune aujourd'hui?
Oh, ben, qu'il aille voir les autres, qu'il fasse, un peu comme les scouts ont fait quand ils étaient jeunes. Mais c'est aller se préoccuper, aider là où il y a la détresse, et on a besoin d'aide et de s'occuper des gens et les soigner. Enfin, il y a mille choses à faire.
Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous dites, finalement, c'est peut-être le temps de partir, je ne me reconnais plus dans ce monde-là?
Ah non, je me reconnais, il y a suffisamment de belles choses pour être très heureux. Non, je ne suis pas du tout pessimiste, ni... Non. Mais il faut faire attention à tout ce qui est contraire à la beauté, à la vérité, à l'amour.
Les artistes ont une place essentielle, ce sont les témoins de l'invisible.
Oui, c'est un père dominicain qui a dit ça. Oui, ce sont les témoins de l'invisible. C'est-à-dire, ils ont en eux ce qui va arriver plus tard.
Vous vous considérez comme un témoin de l'invisible?
Oui, du moment que je suis artiste.
Michael Lansdall. Ses obsèques seront célébrées le 1er octobre à Paris, à la paroisse Saint-Roch, la paroisse des artistes. Elles seront retransmises en direct par la chaîne de télévision catholique KTO. Rosh Hashanah, le nouvel an juif, il y a une semaine. Yom Kippour, le jour du pardon, à partir de ce dimanche soir jusqu'à demain soir. Les grandes fêtes juives à travers le monde ont cette année un goût amer avec les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus. En Israël, reconfiné depuis près de 10 jours, pas question de se retrouver autour de grandes tablées. De même dans les synagogues, d'autant qu'à l'heure où nous avons enregistré cette émission, leur fermeture était envisagée. Catherine Dupeyron, journaliste indépendante à Jérusalem, évoque pour nous le contexte anxiogène de ces fêtes juives.
Dans la majorité des cas, les gens sont effectivement contraints de rester chez eux, contrairement à ce qui se passe habituellement, où cette période de fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, donne lieu à beaucoup de voyages intercités. Là, c'est rigoureusement interdit, puisque les déplacements sont limités à 1000 mètres autour de chez soi. Donc, parfois, les gens ont la chance d'avoir de la famille qui habite pas loin et qui peut s'adjoindre, mais globalement, les gens sont en tout petit comité chez eux.
Alors, ce confinement a commencé le vendredi 18, donc à quelques heures du début de Rosh Hashanah.
Oui, absolument. Ça a permis aux familles de faire leurs courses pour les repas souvent pantagruéliques de cette fête. Avant et à 14h, tout était fermé et la police a arrêté un certain nombre de gens qui contrevenaient aux règles. Et il est intéressant de souligner que certaines familles laïques, donc qui sont pas respectueuses des dates officielles, donc Rosh Hashanah effectivement commençait vendredi soir, mais certaines familles ont décidé d'avancer la date pour pouvoir justement être tous ensemble comme d'habitude. Donc ils ont fait leur fête simplement, ils l'ont fait 24 heures plus tôt.
Et alors pour Rosh Hashanah, les synagogues étaient ouvertes, Catherine Dupeyron?
Les synagogues étaient ouvertes, mais la fréquentation est limitée à, selon les surfaces, mais en principe c'est 10 à l'intérieur et 20 à l'extérieur. Donc beaucoup de synagogues se sont organisées pour mettre un dai parce que le matin, par exemple, le samedi matin, pour la prière du matin, il fait très vite très chaud. Donc c'était important que les gens soient à l'ombre. Donc les synagogues étaient ouvertes, mais avec une fréquentation quand même limitée. Beaucoup de gens ont fait ça sur leur terrasse, dans leur jardin, pas toujours à la synagogue.
Pour Kippour, donc à l'heure où on enregistre, on ne sait pas encore si les synagogues seront ou non fermées. C'est une possibilité.
Effectivement, il est envisagé depuis 24 heures de fermer purement et simplement les synagogues le jour de Kippour, ce qui en Israël est presque de l'impensable, parce que c'est vraiment la fête majeure. Il faut se rendre compte que Jérusalem, qui est une ville quand même avec beaucoup de gens qui sont observants, et la ville est totalement vidée de ses voitures. Il n'y a pas une voiture qui roule, en tout cas dans la partie juive de la ville. Et les gens marchent sur la chaussée, les enfants font du vélo sur les grandes avenues de la ville. C'est assez impressionnant. Et donc fermer les synagogues comme c'est envisagé aujourd'hui par le gouvernement, le jour de Kippour, je pense que c'est inédit. Je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du pays depuis sa création. Et c'est un choc évidemment pour les communautés ultra-orthodoxes en particulier, mais pas seulement. Voilà.
Oui, ne serait-ce que la simple idée crée une polémique. Et d'ailleurs, on peut dire, Catherine Duperron, vous qui, en tant que journaliste indépendante, suivez la vie politique, la vie sociale du pays, qu'il y a actuellement quand même un cocktail un peu explosif en Israël entre les manifestations jusqu'ici donc contre Netanyahou, la Covid et le deuxième confinement, et puis ces fêtes qui arrivent avec les frustrations qui sont liées à ces fêtes, ne serait-ce que le fait de ne pas pouvoir se voir. Là, je ne parle même plus de la synagogue, mais ne pas se voir comme on peut se voir d'ordinaire lors des fêtes juives.
Absolument. Vous avez bien résumé, et je pense que c'est effectivement un cocktail explosif. Il faut se rendre compte que Israël, pendant le premier confinement du printemps, était dans les pays les mieux placés, qui avaient le mieux géré la pandémie. Bon, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais cette fois-ci, pourquoi ce deuxième confinement? Parce que Israël est dans le peloton de queue cette fois-ci, avec des chiffres de malades. On est arrivé jusqu'à plus de 5000 tests positifs dans une journée, un chiffre qu'il faut multiplier par 7,5 à l'échelle de la France. Donc ça fait 40 000 personnes atteintes en 24 heures à l'échelle de la France.
Oui, mais je comprends, bien sûr, oui.
Donc c'est énorme. Et pourquoi en est-on arrivé d'une situation plutôt excellente à une situation pitoyable? C'est essentiellement, voire exclusivement, enfin pas exclusivement parce qu'on voit bien que la pandémie elle renaît partout, mais en tout cas c'est en grande partie dû à une mauvaise gestion pour des raisons politiques, car le gouvernement de soi-disant Union nationale est tout sauf un gouvernement d'Union, que tout est matière à polémique, que tout est matière à pression, et que le responsable de la gestion du coronavirus, qui est un médecin dont les compétences sont totalement reconnues, n'a pas réussi à imposer son plan qui était un peu comparable à ce qu'a fait la France en déconfinement, à savoir imposer des zones rouges, jaunes et vertes. Il a voulu faire ça il y a environ un mois et demi. Il n'a pas réussi à l'imposer parce que les zones concernées étaient surtout des zones habitées par les ultra-orthodoxes et par les populations arabes, et que du coup, ça n'a pas pu être voté par le gouvernement, et encore moins par la Knesset, bien évidemment. Donc le cocktail est explosif. Et les manifestations contre Netanyahou durent depuis 2 mois. Tous les samedis soirs, devant la résidence du Premier ministre, mais aussi dans tout le pays, il y a des rassemblements. Alors là, les ultra-orthodoxes ont dit que si on interdisait les synagogues le jour de Kippour, il fallait aussi interdire les manifestations anti-gouvernement et anti-Netanyahou, ce qui semble assez logique. À partir du moment où on interdit des rassemblements, on ne voit pas pourquoi on interdirait les uns et pas les autres. Mais ils ont menacé évidemment de quitter le gouvernement, ce que Netanyahou ne peut pas se permettre. Et donc, pour le moment, on ne sait pas ce qui va être décidé. En tout cas, si les synagogues sont fermées, les manifestations seront interdites également.
Merci Catherine Duperron. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante à Jérusalem. Merci. Et l'on va à présent au Canada rejoindre David Meyer, rabbin de la Mouvance libérale. Bonjour David Meyer.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes professeur de littérature rabbinique à la Grégorienne à Rome. Vous êtes également essayiste et, bien comme beaucoup de juifs, hein, vous êtes frustré cette année de fêtes juives qui ne se déroulent pas comme d'habitude, notamment au Canada, des fêtes juives sans synagogue.
Oui, c'est vrai, dans de très nombreuses communautés ici, en tous les cas dans le monde non orthodoxe dans lequel j'appartiens, les synagogues sont pratiquement fermées ou alors avec des restrictions sanitaires telles que finalement pratiquement personne ne peut y rentrer. Et donc il y a un sentiment vraiment de tristesse, de frustration et en fait je dirais vraiment un sentiment de deuil par rapport à ce qui se passe, parce que être dans une célébration des fêtes que l'on ne sait pas célébrer et qui est tellement différent de ce qu'on a connu par le passé, ça nous renvoie à une image de comme c'était beau avant, comme c'était chouette avant de pouvoir être en famille, de pouvoir être dans des communautés, de pouvoir célébrer vraiment, et puis tout ça d'un seul coup c'est complètement effondré. Moi mon premier sentiment c'est vraiment celui du deuil et de la douleur.
On lit ici et là hein, des réflexions, justement, d'ailleurs d'hommes religieux disant, voilà, une crise comme celle-là, eh bien, ça peut ouvrir sur le monde d'après, un monde d'après qui sera peut-être meilleur.
Alors oui, on peut toujours effectivement essayer de trouver un réconfort dans une nouvelle naissance. Moi, il me semble que c'est pas nécessairement le cas, parce que je pense que la tradition juive, avant de se lancer dans l'expectation d'une nouvelle naissance, elle a d'abord comme tradition de poser la lamentation. Il y a d'abord le besoin d'être dans cette tristesse par rapport à ce qui était et ce qui n'existe pas, et ça me renvoie, moi, surtout cette période, à l'expérience du livre des Lamentations, le livre des Lamentations dans lequel on dit et on lit pendant de nombreuses pages quelle était belle la vie avant, quelle était belle la vie avant, celle qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que psychologiquement, religieusement, il faut d'abord accepter la tristesse, il faut accepter ce deuil-là. Et moi je suis parfois un peu fatigué des sermons qu'on lit à droite à gauche de gens qui viennent nous dire que tout ça c'est une porte ouverte vers l'avenir. Peut-être pas, mais en attendant, il y a une tristesse. Et moi, j'aimerais bien avoir le sentiment de partager cette tristesse avec d'autres et pas seulement d'être confronté à des gens qui ne voient qu'un avis radieux à l'horizon.
Ce sentiment que vous éprouvez, David Meyer, est-ce qu'il est partagé avec effectivement votre entourage, avec les Juifs que vous, auxquels vous enseignez? Est-ce que c'est partagé, ce sentiment?
Je crois que ce sentiment est d'une certaine façon partagé, mais il y a parfois aussi un autre sentiment, c'est que, quelque part, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent finalement bien satisfaits d'un judaïsme qui serait devenu virtuel, simplement, c'est-à-dire qu'on est passé par le judaïsme Zoom. Moi, je n'y crois pas du tout, parce que simplement, je pense que le judaïsme n'est pas virtuel, et que ce judaïsme-là, il doit se vivre de façon réelle. Je crois qu'il ne faut pas oublier quelque chose de très simple. Moi, je ne suis plus rabbin de communauté aujourd'hui, mais je l'ai été pendant de nombreuses années. Oui, à Bruxelles, en Angleterre. Une synagogue, c'est d'abord une Beit HaKnesset. Une Beit HaKnesset, c'est une maison de rassemblement. C'est pas une maison de prière, c'est une maison de rassemblement. Si on ne peut pas se rassembler, la synagogue, ça n'existe plus. Et donc, quelque part, on n'est pas dans du virtuel ici. On est vraiment dans la réalité de ce que sont les rapports humains, de ce qu'est la proximité. Donc il y a, je dirais, une sorte de dichotomie. Il y a toute une partie des Juifs qui se satisfont d'une vision Zoom du judaïsme. À mon avis, celle-là n'a aucune chance de perdurer et elle ne transmettra pas le judaïsme. Et puis il y a ceux d'un autre côté qui se lamentent de ce qui a été perdu. Et on se retrouve un peu perdu entre ces deux pôles qui existent dans la communauté juive aujourd'hui.
Merci David Meyer pour cet éclairage hein, sur le sentiment de la communauté juive et votre sentiment à vous face à ce Covid-19 effectivement qui n'en finit plus. Merci.
Merci.
Contrairement aux idées reçues, tous les juifs ne sont pas ashkénazes ou séfarades. Il existe à travers le monde des petites communautés éparpillées qui remontent à l'Antiquité ou au contraire aux dernières décennies. On trouve ces communautés dans le Caucase, en Inde, en Chine, dans les Caraïbes, au Suriname, au Cap-Vert, en Afrique australe, au Cameroun ou encore au Nigeria. Pour la première fois, ces communautés sont rassemblées dans un livre collectif, Juifs d'ailleurs, Diaspora oubliée, identité singulière, publié chez Albin Michel. C'est l'ethnologue Edith Bruder qui a dirigé cet ouvrage collectif de près de 500 pages. Elle-même spécialiste du judaïsme africain, a signé plusieurs chapitres de ce livre qui s'ouvre sur une carte du monde. Edith Bruder.
Ce livre, c'est aussi un voyage. C'est-à-dire qu'on peut se rendre en Chine avant de se rendre dans l'Orient russe en fonction de sa curiosité, du moment et des affinités qu'on a avec tel ou tel pays. On n'est absolument pas obligé de suivre la chronologie. Bien sûr, il y a quelques chapitres introductifs, notamment sur les diasporas, sur le sens de l'exil, qu'il est bon d'avoir parcouru auparavant, parce que c'est le cadre académique de cet ouvrage. Mais on peut se promener dans tous ces pays, comme on l'entend, et au gré de son humeur et de sa curiosité.
Edith Bruder, ce livre fait évidemment appel à l'histoire contemporaine, mais surtout l'histoire ancienne, et l'histoire de la dispersion des Juifs, hein, qu'on en fait souvent remonter à l'an 70 de notre ère, hein, avec la destruction du Second Temple. Mais très clairement, il y a eu une dispersion avant, lors de la destruction du Premier Temple, et puis lors du grand exil babylonien, dans la ville de Bagdad aujourd'hui.
Alors en effet, on ne peut pas aborder ce sujet sans aborder la question des tribus. Que nous apprend la Bible sur les tribus ? Les tribus ont été dispersées, on va dire, deux fois essentiellement. Une fois en moins 730 environ par Tiglath-Pileser et Sargon qui les a expulsés en Assyrie.
Ce sont les conquérants assyriens.
Voilà, exactement. Puis par la suite, par Nabucodonosor et un exil à Babylone. Donc ça, c'est le présupposé de tous les groupes dispersés. Qu'est-ce que c'est que cet exil ? Qu'est-ce que c'est que cette dispersion ? Ça, c'est vraiment une question importante. Cette dispersion s'explique par le fait que les groupes, les communautés, n'étaient pas suffisamment respectueuses de l'Alliance. Cet exil est en quelque sorte une punition. La dispersion est un exil. On trouvera dans l'ouvrage des nuances entre dispersion et exil que je ne vais pas développer ici, mais c'est un exil et en fin de compte, les tribus devraient se retrouver réunies dans des temps messianiques.
Alors effectivement, il y a ces tribus qui partent dans la région du Proche-Orient actuel, dans le Caucase, en Iran, ça c'est beaucoup plus connu, mais dans le Caucase, hein, beaucoup moins connu, hein, ce qu'on appelle les Juifs de la montagne, vont aller en Inde et vont aller jusqu'en Chine. Que reste-t-il de ces tribus, notamment, par exemple, je pense aux Juifs du Kurdistan. Là, il y a l'histoire contemporaine qui vient se mêler à cette histoire ancienne, avec la création de l'État d'Israël. Une grande partie de ces tribus sont aujourd'hui, enfin en tout cas leurs descendants, on les retrouve en Israël.
Bien sûr, oui, il n'y a plus vraiment de juifs au Kurdistan. S'ils ont existé, ils ont fait leur alia, ils sont partis s'installer en Israël. Par contre, il existe toujours des juifs en Azerbaïdjan. En Iran, c'est différent, il y a quasiment plus de juifs. Mais ceux qui demeurent en Iran sont très fiers de leur identité iranienne.
Edith Bruder, on va aller un petit peu plus à l'est, vers l'Orient. Et on va parler des Juifs d'Inde. Ils sont arrivés comment ? Par les ports ? Ça serait logique, non ?
On va essayer de comprendre cette question très ouverte par rapport à la tradition orale. Le premier groupe qui a pris racine en Inde, Ce sont les Béné Israël de la côte du Concan, qui, dont la tradition orale nous apprend qu'ils sont arrivés en moins 75 avant Jésus-Christ. Cet homme et cette femme ont été rescapés d'un naufrage et ils ont fondé cette première communauté. Le monde n'a connu l'existence de ces Juifs qu'au XVIIIe siècle par un certain David Rahabi qui a voyagé par là-bas et qui a informé de leur existence.
C'est-à-dire qu'ils avaient des coutumes proprement juives, c'est-à-dire qu'ils respectaient le repos le samedi, qu'ils mangeaient kasher, qu'ils pratiquaient la circoncision. Qu'est-ce qui a fait dire qu'ils pratiquaient le judaïsme ?
Avant toute chose, c'est qu'ils étaient monothéistes dans un pays qui ne l'est pas. Le premier point, c'est cela. Le deuxième point, c'est que David Rahabi, du fait des affirmations de ce groupe qu'il a rencontré, qui clamait sa judéité ancienne, a demandé, c'est une anecdote mais elle est significative, a demandé à des femmes de la communauté de lui préparer un poisson. Et c'est le choix de ce poisson qui lui a fait admettre à lui que ce groupe était effectivement descendant des Hébreux, parce que, outre le fait de leur monothéisme, qu'ils pratiquaient la circoncision, l'exclusion menstruelle, le repos du samedi, ils étaient appelés, ils étaient presseurs d'huile pour beaucoup, ils étaient appelés les chanoirs télis, c'est-à-dire les presseurs d'huile du samedi, même s'ils ne travaillaient pas le samedi. Leur dénomination, c'était ça. Ils étaient hors caste. Ça, c'est aussi très intéressant. Ça fait partie du tableau et d'une certaine façon, ça le confirme. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à exister. Mais il n'y a pas que ce groupe-là en Inde.
On poursuit notre voyage en Amérique latine. La grande date, bien sûr, 1492, découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
Nous savons qu'en 1492 et en 1497, quand les Juifs ont été expulsés d'Espagne et du Portugal, ils sont pour la plupart passés par Amsterdam et envoyés au Nouveau Monde par les instances religieuses, parce qu'en fait, il s'agissait pour certains de personnes très démunies. Il fallait qu'ils s'en sortent. Et une façon de s'en sortir, c'était d'aborder ce Nouveau Monde.
Oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est effectivement c'est cette concordance des dates entre la découverte des Amériques et effectivement les Juifs d'Espagne, qui sont enfin, l'expulsion des Juifs d'Espagne.
Alors cette concordance des dates a créé une nouvelle ère pour les Juifs, parce qu'il y a eu de très nombreuses installations au Brésil, au Suriname, à Curaçao, en Guyane et j'en passe, aux îles du Cap-Vert. Les traditions d'un passé juif ancien perdurent et apparaissent dans certaines circonstances. On ne mange pas de porc, on allume une bougie le vendredi soir, on ne sait plus trop bien pourquoi. Il y a les noms. Dans les Caraïbes, il y a énormément de noms de familles juives, espagnoles ou portugaises.
Alors, Edith Bruder, on va passer à présent aux Juifs d'Afrique, les Juifs africains. Hein, c'est votre domaine de prédilection, donc les Juifs d'Ouganda, d'Afrique australe, du Nigeria, du Cap-Vert, de Madagascar et du Cameroun. Alors, est-ce que ce sont des Juifs issus des tribus disparues, majoritairement, ou bien est-ce qu'effectivement, ils répondent à l'émergence d'un judaïsme, ou en tous les cas, à la construction d'un judaïsme africain ?
Je vais tenter de répondre à votre question, sachant que Elle n'est pas simple à résoudre. Bon, on va dire que les premiers groupes de communautés africaines affirmant une identité juive sont apparus peu après l'alia des Éthiopiens, dit Falacha, en 1980. Quand cette idée, le concept en fin de compte de juif noir, est apparue, elle n'était jamais apparue dans l'histoire de cette religion, en tout cas pas sous cette forme-là, eh bien, progressivement, subrepticement, tout doucement, des groupes d'Afrique subsaharienne ont commencé à affirmer une identité juive. Les premiers ont été les Lamba, Les Lamba, en quelque sorte, ont des traditions issues de l'Ancien Testament. Ça, c'est indéniable. Il y a eu des chercheurs qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et parmi leurs traditions, on ne peut pas ne pas reconnaître les correspondances avec les traditions de la Bible. Et puis, il y a eu des études génétiques. Des chercheurs sud-africains, je dois dire que les Lamba sont un groupe de Bantous qui se trouve dans le Venda. C'est le nord de l'Afrique du Sud et la limite du Zimbabwe. Il y a également des Lamba au Zimbabwe. Donc des chercheurs, Spurdle et Jenkins, ont rebondi sur la tradition orale et les affirmations des Lamba, ont fait des études génétiques et ils ont découvert que les Lamba étaient majoritairement non-africains en lignée paternelle, une partie africaine et une partie non identifiée visiblement, ce qui corroborait bien leur tradition orale dans la mesure où les Lamba disaient qu'ils étaient des marchands d'origine yéménite, ou bon voilà, ils disaient qu'ils venaient de Sanaa et qu'ils s'étaient implantés dans ces lieux-là où ils avaient pris des épouses africaines. Vous voyez, ça correspond bien à la génétique. Par la suite, une autre étude ultérieure a démontré que les Bouba, qui sont les prêtres des communautés Lamba, des groupes Lamba, avaient porté ce qu'on appelle l'haplotype Cohen modal, qui est porté par les Lévites partout. Donc ça, si vous voulez, sur le plan médiatique, ça, c'était une bombe médiatique. À partir de là, des groupes parmi lesquels antérieurement la notion, comment dire, l'intégration d'une identité juive s'était faite par des moyens divers et variés, dans lesquels je ne pourrais malheureusement pas rentrer ici, ont déclaré qu'ils étaient eux-mêmes juifs, qu'avant la colonisation, ils avaient des traditions juives qui ont été gommées par leur évangélisation. Autant dire que c'est aussi une arme de libération par rapport au fait que le christianisme leur a été imposé par les colonisateurs. On le retrouve plus ou moins, cet aspect-là, politique de libération, selon les groupes et selon la façon dont ils s'expriment et vivent leur identité.
Alors, Edith Bruder, il y a l'autre groupe, celui du judaïsme émergent. Comment revendiquent-ils leur judaïsme ?
Il y a des groupes récents du XXIe siècle, très récents, qui ont émergé dans les années 2000, qui, eux, ne font pas référence aux tribus, qui sont juifs par choix, qui ont décidé, c'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Kenya, qui ont décidé d'adopter une identité juive en ayant étudié les textes et parce que ça leur convenait mieux. Ils sont tous issus de groupes pentecôtistes ou de juifs messianiques et c'est leur cheminement spirituel qui les a amenés à élire le judaïsme.
Et il y a toujours dans ces choix l'intervention d'un leader charismatique.
Toujours, il y a des groupes où il y a des prophètes, carrément en Ouganda, Kakungulu, qui était un chef de guerre, a été un prophète, mais là je remonte dans le passé, puisque Kakungulu c'est le 19e siècle. Au Ghana, c'était Chokirafa qui a été un prophète aussi. Ça, c'est le 20e siècle, la fin du 20e siècle. Au Cameroun, c'est la maman du leader actuel, Serge Télé, qui a eu une vision. Mais ils étaient déjà, le groupe, la communauté, était déjà sur son chemin du judaïsme. Mais c'est elle qui a confirmé par sa vision. Donc on retrouve, comment dire, des synopsis connus. Adon Olam Asher Melech Betrim Yitzir Nivro
Alors, la grande question maintenant, et ça j'allais dire, c'est tout ce que sous-tend votre livre aussi, hein, Edith Bröder, c'est est-ce qu'on est juif parce qu'on pratique le judaïsme ? Que fait le grand rabbinat en Israël avec ces juifs d'ailleurs ? Est-ce qu'il les reconnaît ? Est-ce qu'il leur demande une conversion ? Il semblerait que oui quand même pour ceux qui veulent venir en Israël, ceux qui sont accueillis en Israël. Voilà, la question, est-ce qu'on est juif parce qu'on pratique la loi juive ?
Alors là, vous me renvoyez une question sans fin qui est qui est juif ?
Eh oui.
Écoutez, je ne vais pas pouvoir répondre parce que c'est une interrogation récurrente et je serais incapable d'y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, du côté des autorités israéliennes, tant politiques que religieuses, il n'y a pas de réponse univoque. Certains de ces groupes, comme les Éthiopiens, ont été reconnus comme étant juifs par le grand rabbin et comme étant issus justement de la tribu de Dan. Les Béné Ménaché ont été également reconnus d'Inde, ont été reconnus, qui sont une communauté émergente, qui n'existait pas il y a un siècle ou il y a un demi-siècle, ont été également reconnus. Et puis, il y en a d'autres qui ne le sont pas ou qui sont en cours de conversion, comme les Béné Éphraïm. Les Béné Ménaché sont également en cours de conversion, mais la conversion a été admise. Il faut encore qu'elle le soit. Voilà. Le ministère des Affaires des Diasporas, il y a 5 ans, a entamé une réflexion sur ce sujet. Les conclusions n'en sont jamais sorties dans un rapport très clair. Il y a eu des informations sur le fait que ceux qui étaient intéressés ou impliqués, ou plus que cela dans le judaïsme, qui le pratiquaient, pouvaient être aidés à être formés. Et jusque-là, en tout cas à ma connaissance, les choses en sont un petit peu restées là.
Ces juifs d'ailleurs, Edith Bröder, ben, ils dérangent quand même, non ? Dans la conception même de l'identité juive. Ben, c'est la loi, hein, la mère est juive, alors on est juif, ou alors on se convertit. Mais là, certaines communautés ne répondent absolument pas à ces critères, notamment les communautés émergentes.
Là, le présupposé de cet ouvrage, et je l'écris dans l'avant-propos, c'est qu'on ne s'en tient pas strictement à la halakha qui définit l'identité juive comme étant transmise par la mère. Donc il est certain que, bien sûr, ces groupes, pour beaucoup, ne répondent pas à cette règle. Maintenant, il y a certainement plus d'une façon d'être juif, et c'est ce que démontre cet ouvrage.
Alors, est-ce qu'on n'est pas quand même avec ce livre sur une forme de déconstruction de l'identité juive ?
Écoutez, ça pourrait être le mot de la fin. Est-ce qu'il s'agit d'une déconstruction ou il s'agit d'une reconstruction ?
Alors, reconstruction, on restera donc sur ce mot-là pour votre livre, Juif d'ailleurs, Edith Bröder, publié chez Albin Michel. Merci.
Merci à vous.
Et je rappelle qu'Edith Bröder a publié chez ce même éditeur Black Juice. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.